Il est 8h.
L'engagement américain, le leadership américain avec la diplomatie en premier, c'est quelque chose de fondamental.
C'est un Américain qui parle ainsi la langue de Molière et de Lafayette au micro d'Europe 1. Et cet homme est le futur patron de la diplomatie des États-Unis, Anthony Blinken, qui a passé son bac en France il y a 40 ans, sera le Secretary of State de Joe Biden. Notre correspondante à Washington l'a rencontré. Les mots et les décisions seront ajustés jusqu'à la dernière minute et Emmanuel Macron les déclinera à 20h. Les commerces, la culture, les cultes et puis ce satané rayon d'un kilomètre autour du domicile. Une exception toute française. Dans ce journal, 3 euros de plus par jour pour les télétravailleurs. Pourquoi pas? La mesure est en place chez un assureur. Le sondage européen qui va rassurer Xavier Bertrand, certain à date d'être réélu dans les Hauts-de-France. Préalable pour lui à une candidature élyséenne. Et puis Gérald Darmanin, choqué par les images d'une intervention policière hier soir. Le ministre de l'Intérieur promet des sanctions.
L'allocution du président de la République, la gauche et les rassemblements pour 2022 et ce démantèlement mouvementé d'un campement de migrants à Paris hier soir. Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, invité politique de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il était temps. Nous sommes 3 semaines après l'élection présidentielle américaine et plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire de Joe Biden par la quasi-totalité des médias américains. Voilà que Donald Trump amorce un pivot.
Bonjour Sonia Dridi.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Washington. Le président sortant lance enfin le processus de transition. C'est ce qu'il dit dans un message Twitter. Tout de même assez ambigu.
Oui, Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite, mais il se résout à accepter la transition politique. Il a recommandé hier soir dans un tweet le passage de témoin entre son administration et celle du président élu Joe Biden. L'équipe Biden va désormais pouvoir recevoir les 6 millions de dollars alloués au processus de transition, accéder aux différents locaux de l'administration et obtenir des informations confidentielles essentielles.
Et sans attendre, le président élu constitue son équipe. On retient un nom ce matin, celui qui sera secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken.
Sonia Dridi, vous le connaissez, vous étiez entretenu avec lui pendant la campagne. C'est un pilier du Parti démocrate depuis plus de 20 ans. On note aussi qu'il parle très bien français.
Oui, Anthony Blinken a vécu à Paris pendant près de 10 ans. Il a déménagé avec sa mère en France lorsqu'il avait 9 ans et il est resté jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Depuis 20 ans, c'est un fidèle de Joe Biden. Il a travaillé à ses côtés au Sénat où il s'occupait des affaires étrangères. Il l'a suivi à la Maison Blanche, époque Obama, où il a été secrétaire d'État adjoint pendant 2 ans. C'est donc un choix rassurant pour les Européens. Quand je l'ai rencontré pendant la campagne, il m'avait expliqué que les États-Unis devaient absolument tourner le dos à la doctrine Trump, l'Amérique d'abord.
Soit les États-Unis jouent le rôle que nous avons joué depuis 75 ans comme le pays ou un des pays, ou du moins, qui anime la construction des institutions, la création de normes et des règles, qui gouvernent un peu la relation entre les États, ou de deux choses l'une. Soit, si ce n'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre, et probablement pas de façon qui va avancer nos intérêts et nos valeurs, ou personne ne le fait. Et là, ça crée un vide où des problèmes se manifestent beaucoup plus rapidement que des solutions. Donc, l'engagement américain, le leadership américain avec la diplomatie en premier, c'est quelque chose de fondamental.
Voilà, Anthony Blinken à votre micro, Sonia Dridi. Autre figure de la future administration Biden, ça va rappeler quelques souvenirs. Il s'agit de John Kerry.
Oui, l'ancien secrétaire d'État John Kerry, également francophone, sera lui l'émissaire spécial sur le changement climatique. Joe Biden a promis que dès son arrivée dans le bureau ovale, il réintégrera l'accord de Paris sur le climat.
Francophonie donc et francophilie du côté du gouvernement américain, du futur gouvernement américain. Sonia Dridi en ligne de Washington pour Europe 1.
Et on va redonner le titre de la biographie de Joe Biden qui vous avez donné, Sonia, à l'occasion de rencontrer tous ses proches, dont Anthony Blinken. Le pari de l'Amérique anti-Trump, c'est aux éditions du Rocher.
On saura donc ce soir à quelle sauce nous allons être très progressivement déconfinés. Emmanuel Macron prend la parole à 20h. Ce sera à suivre en direct sur Europe 1 avec l'analyse des spécialistes de la rédaction.
Et Jean-Rémy Bedeau, cette fois encore, tout va se jouer à l'Élysée dans les prochaines heures.
Oui, rarement un conseil de défense Covid n'aura focalisé autant d'attention. Il sera déterminant, confirme un proche d'Emmanuel Macron. Car si l'on connaît l'esprit des annonces de ce soir, un allègement progressif par étapes sur les prochaines semaines, si l'on note le besoin de clarté et de cohérence promis par l'Élysée, le diable sera dans les détails. Sur la table ce matin à l'Élysée, la réouverture des magasins, les perspectives pour le secteur de la culture, pour les cultes, quid des déplacements pour Noël, faut-il renforcer le soutien économique ? Enfin, il sera aussi notamment question de la situation épidémique avec les tests et le déploiement des futurs vaccins. Dans les couloirs de l'Élysée, on a bien déjà une trame pour l'allocution de ce soir, mais peu se risque à en parler, car c'est bien les tout derniers chiffres de l'épidémie qui dicteront la ligne. Au Conseil de défense, Véran arrive toujours avec du nouveau, explique un conseiller. Avec tous ces éléments, Emmanuel Macron annoncera ce soir les perspectives pour les prochains mois, précise l'Élysée. Le président, bien conscient de l'impatience des Français et de son propre défi, ne pas rater la sortie progressive de ce deuxième confinement.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Alors vous parliez des déplacements. Il y a cette fameuse limite d'un kilomètre autour du domicile.
Oui, un kilomètre, une heure maximum pour se balader, promener son chien ou faire du sport. Contrairement au confinement du printemps, on se rend compte, Ève Roger, en fait, que cette mesure n'a plus vraiment de justification aujourd'hui.
Et oui, déjà la France fait figure d'exception en Europe. Seule l'Irlande a maintenu cette fois-ci une limite de 5 km à ne pas dépasser. Depuis le premier confinement aussi, on sait que les contaminations sont très rares à l'air libre, 20 fois moins que dans les espaces clos. Et puis ça pousse de toutes parts pour faire tomber la règle. Pétition de sportifs pour passer à 5 km ou encore à 20 km. Recours des écologistes devant le Conseil d'État qui pointe une rupture d'égalité entre les Français. Tout le monde n'a pas un parc ou une forêt autour de chez soi. Dernier argument en date, avancé par 68 sénateurs de la droite et du centre, dans une lettre adressée samedi au Premier ministre, faire du vélo, marcher, courir sont de bons moyens de lutter contre la dépression et l'anxiété des Français. Enfin, argument pragmatique qui pourrait finir de convaincre le président, la règle va être difficile à tenir au moment de la réouverture des petits commerces. Comment un policier peut-il distinguer un Français qui va acheter un jouet ou un vêtement dans une boutique à 3 km de chez lui d'un simple marcheur qui a décidé de prendre l'air.
Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, côté économique, indépendamment des annonces de ce soir, il y a cette négo entre syndicats et patronat, 8 heures de discussion hier et ils s'y remettent ce matin. Il y avait trop de divergences encore, même si le patronat a fait des gestes, notamment sur la prise en charge des frais occasionnés par le télétravail pour les salariés.
D'ailleurs, certaines entreprises ont déjà instauré un forfait. C'est le cas à la Matmut depuis le 1er octobre, Olivier Samin.
3 euros net par jour télétravaillé, plafonné à 50 euros par mois. Voilà ce que perçoivent les 6000 salariés de la Matmut quand ils exercent leur métier chez eux, qu'ils travaillent au siège, à Rouen, ou dans les agences un peu partout en France. Sébastien travaille au siège, ou plutôt travaillait au siège, puisque depuis la fin octobre, reconfinement oblige, il a pris ses quartiers chez lui, retrouvant ses habitudes du printemps dernier.
Évidemment, le travail à domicile génère des frais. Hein. On voit notamment par rapport au mois de mars, ce confinement avec le passage à l'heure d'hiver, on est obligé d'allumer les lumières plus tôt, on a le mode de chauffage à domicile qui est en continu sur la journée, on est obligé de le laisser puisqu'on est constamment chez soi. Ça occasionne une consommation beaucoup plus importante. Après, il y a effectivement le matériel, les imprimantes personnelles, le papier, les bureaux. Et 3 euros par jour de télétravail, moi j'estime que ça compense les frais qui sont inhérents au travail à domicile.
À la Matmut, l'accord a été signé début octobre par l'ensemble des syndicats. Et le niveau d'indemnisation proposé a très vite fait consensus.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. J'ajoute cette information qui pourrait donner des idées à d'autres. D'ici quelques mois, la compagnie aérienne australienne Qantas va imposer à ses voyageurs internationaux d'être vaccinés contre le Covid-19.
Voici un sondage qui va faire parler dans toute la région des Hauts-de-France et au-delà même. Sondage Europe 1 avec l'IFOP et la Tribune. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Chef du service politique d'Europe 1.
On se projette sur les élections régionales prévues en juin prochain qui sont cruciales pour Xavier Bertrand et vous nous révélez qu'il gagnerait quels que soient ses adversaires.
Écoutez, le constat est simple. L'actuel président Xavier Bertrand est donné gagnant dans tous les cas de figure dans les Hauts-de-France avec ce sondage. Il obtient 33% donc des suffrages et sa liste devant celle du Rassemblement National qui atteint le score de 29%. Autre enseignement marquant, la liste de La République En Marche est loin derrière avec 9%. Bertrand distance largement la liste socialiste qui n'obtiendrait que 8% si les électeurs devaient se prononcer dimanche prochain. La liste Europe Écologie Les Verts ferait présidentielle 8% des voix, celle des insoumis 5,5% et la liste communiste rassemblerait 3,5%. Pour les hypothèses du deuxième tour, dans le cas où ce serait possible, une alliance entre le PS et l'écologiste rassemblerait 15%. Et dans le cas d'un deuxième tour sans La République en marche, eh bien Bertrand creuserait encore plus l'écart avec 42% des voix. Le RN obtiendrait 34% et les alliés PS Vert 24%. Tous les états-majors nationaux vont étudier de près ces résultats, en particulier à l'Élysée où le président des Hauts-de-France est vu comme un potentiel rival d'Emmanuel Macron. Xavier Bertrand avait été élu en 2015 à la tête des Hauts-de-France contre Marine Le Pen grâce aux voix socialistes. Il devra prouver au mois de juin que son élection n'était pas un accident parce que ce sondage doit être d'abord confirmé ou infirmé par les électeurs en juin prochain et c'est à cette seule condition que Xavier Bertrand pourra poursuivre sa route vers une candidature à l'élection présidentielle.
Merci Mickaël Darmon, sondage Europe 1 IFOP La Tribune à retrouver sur europe1.fr.
Un rapport circonstancié remis dès midi aujourd'hui et des décisions prises dès sa réception. C'est la promesse de Gérald Darmanin après les images qu'il qualifie de choquantes. C'était hier soir, place de la République à Paris, l'évacuation de plusieurs centaines de migrants, ceux-là même qui avaient été délogés de Saint-Denis la semaine dernière.
Il y a eu des bousculades, des face-à-face très tendues entre forces de l'ordre d'un côté et avocats, élus ou encore journalistes, comme le raconte le caméraman Rémi Buzine qui s'est retrouvé plusieurs fois au sol.
Ça a dérapé totalement, les policiers sont intervenus, ils ont arraché les tentes. Nous, en tant que journalistes, on a été entravés à nombreuses reprises, on a reçu des coups, on a été bousculés, on n'a pas arrêté de dire qu'on était de la presse, mais ça changeait rien.
Recule !
Ça va Rémi ? Ça va Rémi ?
Alors, y a-t-il eu dérapage hein ? C'est la question ce matin. Le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, David Lebars, reconnaît pour le moins des dysfonctionnements dans le maintien de l'ordre.
La violence, elle n'est légitime que quand elle est en riposte et qu'elle est proportionnée à des agressions. Le problème de ces images-là, c'est qu'on voit effectivement un usage de la force, mais qu'on ne voit pas en face des gens qui étaient en situation eux-mêmes d'avoir usé de la force contre les policiers. Il va y avoir une enquête qui va permettre de déterminer pourquoi des journalistes ont été frappés, pourquoi des gens ont reçu un croche-pied, pourquoi certains gendarmes ou policiers ont perdu leur sang-froid. Et c'est ces images-là, je pense, que le ministre pointe du doigt et pour laquelle il va demander des comptes au chef de dispositif.
David Lebars, joint pour Europe 1 par Alain Acco.
En football, le PSG est face à son destin européen. On parle là du finaliste de la dernière Ligue des Champions, mais qui est au pied du mur au matin de son match face à Leipzig.
Oui, et Reynald Pedros, le consultant foot d'Europe 1, nous résume la situation. Une quasi-finale.
C'est plus qu'une finale, il leur reste trois matchs, donc c'est trois finales. Il n'y a plus de temps à perdre. Le PSG a déjà perdu deux fois. Même si c'est une phase de poule, on dit toujours que bon, il y a toujours moyen de se rattraper. Mais là, il y a urgence. Je pense qu'ils peuvent redresser la barre. Après, il y a Mbappé qui revient, il y a Neymar qui revient aussi. Ils peuvent créer des différences et ils peuvent battre cette équipe de Leipzig. Ils sont capables de le faire, mais faut plus se louper.
Reynald Pedros avec Cyril de la Morinerie. PSG Leipzig, c'est à 21h, soirée spéciale sur Europe 1. Et puis je vous propose comme ça, gratuitement ce matin, un petit cours de chinois.
Ah, c'est sympa.
Voici comment on dit 5-4-3-2-1-0 en chinois.
5-1-1-0-0.
On entend le souffle d'une fusée chinoise qui est en train de décoller. C'est une mission.
C'est léger le souffle.
Oui, c'est une hybride. Puissant, écoutez.
Je crois que c'est une hybride.
Rechargera peut-être. C'est une mission chinoise vers la Lune pour récupérer des roches et tester des technologies qui seront utilisées ensuite pour envoyer des taïkonautes, comme on dit, des astronautes chinois, sur la Lune en 2030.
Heureusement, mais merci de l'avoir souligné, on parle sans arrêt des Américains et des projets européens, les Chinois, les Indiens aussi, Israël aussi, il y a une conquête de l'espace qui se fait partout sur la planète. Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.